100% d'Europe, Léa Lisa Vesterov.
Cette journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie ou la biphobie, Accent d'Europe vous emmène aux Pays-Bas. À 35 ans, le centriste Rob Jetten est non seulement l'un des plus jeunes ministres de toute l'histoire des Pays-Bas, mais il est aussi l'un des premiers responsables politiques du royaume à avoir dénoncé les nombreuses insultes homophobes dont il est régulièrement la cible. Lui qui est en couple avec un homme. À La Haye, Antoine Mouteau.
Le ministre pour le climat et l'énergie, le heer Jetten,
le 10 janvier dernier, au palais Noordeinde à La Haye, Rob Jetten, 35 ans, prête serment devant le roi Willem Alexander et les caméras des télévisions néerlandaises. Le visage du nouveau ministre du Climat est très connu ici aux Pays-Bas, d'abord parce qu'il est l'un des rares dirigeants du pays à avoir grimpé les échelons aussi rapidement. Avant de devenir l'un des plus jeunes ministres de l'histoire néerlandaise, il a été pendant plusieurs années le plus jeune chef du parti centriste des SNCSTER, mais c'est surtout son combat contre l'homophobie que retient une partie des Néerlandais. Le 17 mai 2020, journée internationale contre l'homophobie, dans une vidéo tournée depuis son bureau, il se contente de lire à haute voix un petit extrait des messages qu'il reçoit régulièrement de la part d'Incognito.
Achterlijke flikker, stinkhomo.
Attardé de tapette, salomo. Je pense que nous devrions rendre publique l'adresse de Rob Jetten. On ferait ainsi d'une pierre deux coups. Un chien d'infidèle et un homo en même temps. Jetten est une personne malade. En le voyant, il y a de quoi éprouver un terrible dégoût envers les homosexuels. Quelle sale pisseuse, cette pantouse. Si seulement tu pouvais fermer ta bouche de suceur, ne serait-ce qu'une fois, ça économiserait de l'air aux grandes personnes du Parlement. Tu n'as pas honte, Salomo.
Le clip de 2 minutes publié sur le compte Twitter de Rob Jetten a été visionné plus de 700 000 fois et a suscité une vague d'indignation à travers les Pays-Bas. En 2021, un an après la diffusion de cette première vidéo choc, Rob Jetten a participé à un deuxième clip dans lequel plusieurs Néerlandais victimes d'homophobie et de transphobie dénoncent les insultes dont ils sont la cible. Les Pays-Bas ont beau avoir été en 2001 le premier pays au monde à étendre le mariage civil aux couples de même sexe, le chemin vers la fin des discriminations semble encore long. Il y a quelques mois, juste avant son investiture en tant que ministre du Climat, des rumeurs circulaient autour d'une éventuelle nomination au poste de ministre de la Défense. Et là encore, les insultes et moqueries homophobes ont fleuri.
En France, en 5 ans, le nombre d'actes anti-LGBT+ a doublé, selon le ministère de l'Intérieur. Près de 3 mois après le début de l'invasion russe en Ukraine et alors que la guerre est toujours en cours, un premier procès pour crime de guerre s'ouvre demain à Kiev. Un soldat russe de 21 ans est accusé d'avoir tué un civil de 62 ans. Pour juger les crimes de guerre, la collecte des preuves est un enjeu majeur et pour cela, depuis la guerre en Syrie, les informations qu'on peut obtenir sur la toile sont devenues au moins aussi importantes que celles collectées sur le terrain. Ces dernières années, les ONG ont donc dû s'adapter. À Berlin, depuis 2 ans, Human Rights Watch a ainsi créé un bureau des investigations numériques, le Digital Investigation Lab. Déborah Berlioz a rencontré le directeur de ce lab, Sam Duberlet.
C'est une vidéo amateur publiée sur Twitter, comme on en voit des centaines depuis le début de la guerre en Ukraine. La scène se passe à Kharkiv, et depuis la fenêtre d'un immeuble, on voit des bombes tomber sur un parking. C'est le genre d'image que Sam et son équipe passent au crible afin de vérifier si la scène se passe bien dans la ville de Kharkiv et de documenter au mieux ce qui se passe sur place.
Ce que les vidéos et les photos nous donnent, ce qu'on n'a pas eu avant, c'est vraiment on peut voir en temps réel ce qui se passe quelque part. Mais ce qu'on voit aussi dans la guerre, c'est que très rapidement on voit des vidéos, des photos qui ne sont pas de l'Ukraine, qui sont de notre endroit géographiquement ou qui sont de notre temps.
À l'ère numérique, la guerre des images est en effet tout aussi importante que la guerre sur le terrain. Les 6 enquêteurs du Digital Investigation Lab doivent donc avant tout vérifier la provenance de ces images, savoir quand et où elles ont été prises. Pour cela, ils utilisent ce qu'on appelle l'OSINT, ou Open Source Intelligence, soit renseignement de sources ouvertes. En vrai, cela signifie simplement qu'ils utilisent des informations en accès libre sur la toile, comme des cartes de Google Maps, les contenus des réseaux sociaux ou encore des images satellites. Cela demande beaucoup de patience, mais pas de compétences techniques particulières. La vraie difficulté est ailleurs.
On dit par exemple que sur YouTube, il y a beaucoup plus d'heures de la guerre en Syrie sur YouTube qu'il y a en fait dans la guerre en Syrie. Donc, pour donner une idée de la quantité d'infos qui existent.
Comme ils ne peuvent pas tout traiter, l'équipe de SAM se concentre sur les violations les plus flagrantes des droits de l'homme. En Ukraine, ils ont ainsi travaillé sur Boutcha et sur le bombardement du théâtre de Mariupol. Leurs informations sont recoupées avec celles de leurs enquêteurs sur le terrain qui interrogent les témoins de la guerre. Ils ont également pu prouver l'utilisation de bombes à sous-munitions par les forces russes. Ces armes dispersent des petites bombes de manière aléatoire sur une large superficie. Très dangereuses pour les civils, elles sont normalement proscrites dans les conflits.
Ils sont très petits en fait. Et quand ils s'explosent, ce n'est pas des dégâts énormes. Quand on voit des morts, ce n'est pas des corps qui ont été explosés, si on veut. C'est vraiment des morts tirés par des balles, quoi.
Autant dire que si ce travail demande beaucoup de patience, il demande aussi une énorme endurance psychologique.
Quand on fait ce travail, il faut savoir qu'on va voir le pire que l'humanité peut faire. Chaque fois, je pense que j'ai tout vu. Et puis, d'un coup, il y a quelque chose de nouveau que je n'aurais jamais imaginé voir. Et ce n'est pas que l'Ukraine, hein, c'est partout. C'est la Birmanie, c'est l'Éthiopie, c'est Syrie, c'est aussi des manifestations en France, en Colombie, etc.
Le lab a été créé en 2020, mais cela fait plus longtemps que Human Rights Watch travaille avec des cyber-enquêteurs. Le printemps arabe et la guerre en Syrie ont notamment montré l'utilité des sources numériques.
On pourrait voir ce qui se passait à l'Alep sans qu'on était obligé d'être sur place ou c'était trop dangereux. En même temps, on ne peut pas être partout. Et ce qui est aussi important, c'est que quand il y a des États qui ne permettent pas que Human Rights Watch y va, on peut quand même garder un œil dessus.
Aujourd'hui, l'équipe de SAM comporte 6 enquêteurs basés aux 4 coins du globe et elle ne cesse de gagner en importance.
Direction l'Angleterre à présent, où la question des migrants qui traversent la Manche pour demander l'asile est âprement débattue et de plus en plus controversée. Certains estiment que le pays est trop généreux, voire que Londres ne dit pas la vérité sur le nombre d'arrivées sur le sol anglais. Marie Billon est allée rencontrer deux de ces citoyens inquiets, comme ils se présentent, qui passent leur journée à observer la Manche pour décompter et dénoncer les arrivées des migrants.
Tracy installe son trépied et pose sa caméra. Comme presque tous les jours, elle s'est installée sur le port industriel de Douvres, dans un parking privé, avec l'autorisation du propriétaire, dit-elle, situé juste en face du ponton où les embarcations gonflables sont emmenées et leurs occupants qui ont traversé la Manche pour arriver sans autorisation sur le sol anglais, débarqués et recensés. Tracy sort aussi son clicker, un petit compteur manuel pour enregistrer le nombre de migrants qui arrivent en Angleterre chaque jour.
Le ministre de l'Intérieur n'a pas les bons chiffres. Je le sais parce que je suis là tous les jours à compter chaque individu qui arrive et nos chiffres ne sont jamais les mêmes. Les miens sont toujours plus élevés.
Tracy est persuadée que les autorités ne comptent que les hommes, pas les femmes et les enfants, pour minimiser les arrivées et minimiser ce qui, pour elle, est un problème. Tracy se dit en tout cas investie d'une mission, informer ses un peu plus de 2000 abonnés sur les réseaux sociaux et son site internet du nombre de migrants qui arrivent à Douvres.
Puisque je documente le nombre, je ne peux manquer aucune arrivée. Et comme je partage l'information en direct, les gens peuvent compter avec moi et vérifier mes chiffres. Dès qu'il y a une traversée, je suis là. Même quand rien ne se passe, je garde un œil sur mon application de trafic maritime et je reçois des alertes aussi, donc parfois ça me réveille. Et dès que je reçois la notification qu'un bateau de sauvetage est sorti, je regarde quand il commence à revenir vers les côtes. Et là, tout de suite, je me prépare et je viens ici.
Tracy a même un scanner, une sorte de radiorécepteur qui intercepte les transmissions des sauveteurs en mer et de nombreux vaisseaux. Elle avoue avoir dépensé plusieurs milliers d'euros pour s'équiper et a abandonné son travail de toiletteuse pour chiens dans le centre de l'Angleterre pour louer un petit appartement près du port de Douvres. Elle se présente désormais comme un média d'information et gagne sa vie en vendant les vidéos des arrivées de migrants aux médias et grâce à des dons de particuliers.
Hi, I'm Martin Osborne.
Martin, lui, est un auxiliaire de vie au nord de l'Écosse. Il se présente comme un citoyen inquiet, mais cherche lui aussi à être reconnu comme un média. Lui aussi a mis sa vie entre parenthèses pour effectuer cette mission, comme il la qualifie, quitte à se rendre à l'autre bout du pays, à Douvres donc, quitte au sud de l'Angleterre. Car pour lui, accueillir des étrangers qui viennent pour des raisons économiques est inacceptable, au point d'en faire une obsession.
C'est une invasion et il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire parce que d'après ce qu'on voit, le gouvernement l'accepte. J'ai commencé à surveiller la Manche parce que j'ai entendu des migrants se plaindre de leur hôtel. Il n'y avait pas la bonne nourriture, pas de bonnes fenêtres, ça ne faisait pas face à la Mecque. Et quand on leur a proposé un logement, ils ont refusé parce qu'ils n'aimaient pas l'endroit. Ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui fuit un conflit. C'est celle d'un migrant économique. C'est le cas de beaucoup de ceux qui sont arrivés ici. Ils ne sont pas comme les Ukrainiens qui fuient réellement la guerre. Eux, ils sont bienvenus, parmi on devrait pouvoir tous leur trouver des maisons, mais on ne peut pas parce qu'on n'a plus de place.
Martin estime que 133 000 migrants sont arrivés en Angleterre en traversant la Manche illégalement l'an dernier. Les véritables chiffres officiels, eux, font état de 30 000 environ. Sans pouvoir prouver ce qu'il avance, il affirme aussi que la marine française pousse les embarcations des migrants dans les eaux anglaises pour qu'ils ne soient plus le problème de l'Hexagone. Il estime que les Britanniques sont intentionnellement mal informés sur la situation. Beaucoup d'affirmations qui ne se basent sur aucune donnée concrète.
Vous voyez cette barrière noire là-bas ? C'est là qu'ils enregistrent les arrivants. Avant, c'était juste ici, sous une énorme tente. Mais les associations se sont plaintes. On dit que c'était inhumain de les garder là. Nous, on a envoyé quelqu'un dedans. C'était chaud, c'était confortable. Après, ils les mettent dans des bus et les installent dans des hôtels le temps de gérer leurs dossiers. On n'a plus de tourisme dans ce pays car les hôtels sont tous pris, sauf les grandes chaînes. Et maintenant, ils sont en train de créer de nouveaux villages pour y installer les migrants. Et on oublie les indigènes. Les dizaines de milliers de gens de ce pays qui attendent un logement. Ils sont relégués au second plan.
Le discours de Martin est nourri de fake news, mais le problème, c'est qu'il est loin d'être le seul à penser ainsi. Beaucoup de Britanniques s'inquiètent des effets que l'immigration a sur leur quotidien et se disent déçus des promesses du Brexit. Ils ne font pas confiance au gouvernement pour régler ce qu'ils considèrent comme un problème, ni l'accord avec le Rwanda, qui doit servir à envoyer des migrants dans ce pays africain le temps d'examiner leurs dossiers plutôt que de les garder au Royaume-Uni. Ni la loi nationalité et frontières qui menace d'une peine de prison toute personne arrivant sur le sol britannique sachant qu'elle n'en a pas le droit ne changeront les choses selon Tracy.
Vous voyez, on a tellement d'accords et de promesses, mais rien ne bouge. Les gens perdent la foi en notre gouvernement parce qu'ils se sentent abandonnés. Depuis le Brexit, ça a juste empiré. Ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient promis, sécuriser les frontières. Je ne suis pas contre l'immigration, mais je voudrais qu'elle soit contrôlée.
Ce jour-là, Tracy et Martin sont rentrés bredouilles. Selon eux, la mer était trop agitée, aucune traversée n'était possible. Dans ces cas-là, ils aiment bien monter en haut des falaises de Douvres pour avoir une meilleure vue des côtes. Et parfois, ils aperçoivent même la France. Ils ont en tout cas toujours leur radio-récepteur allumé au cas où quelque chose se passe. Et continuent à alimenter leurs réseaux sociaux et à entretenir le mécontentement.
En France, au 1er avril, la population carcérale dépassait 71 000 détenus. C'est 9% de plus que l'année dernière et un record depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais le plus inquiétant, c'est qu'il y a, à l'heure actuelle, moins de 67 000 places en prison. En France, la surpopulation carcérale est donc systémique, avec pour conséquence des conditions de détention de plus en plus dégradées pour les prisonniers. Nathanaël Vitran s'est rendu à la maison d'arrêt de Seine-Saint-Denis à Villepinte. Son reportage.
Et voilà, nous sommes en détention.
En théorie, la maison d'arrêt peut accueillir 582 détenus. Ils sont plus d'un millier. Un taux d'occupation proche de 180% qui ont fait l'établissement pénitentiaire le plus surpeuplé de toute l'Île-de-France, avec des conséquences très concrètes.
Ici, toutes les cellules simples sont occupées par deux personnes et les cellules doubles, qui font 13 mètres carrés, sont occupées par trois personnes.
Michael Mercier est le chef d'établissement, le directeur de la prison.
Cela fait de très nombreuses années que l'établissement accueille un taux d'occupation qui dépasse largement sa capacité, afin d'éviter que nous ayons des matelas au sol, qui est un fléau en termes d'accueil et de risque après dans l'établissement. Nous avons ajouté, parce que les cellules le permettent, un lit supplémentaire, ce qui permet quand même que les personnes dorment dans un vrai lit. Après, je ne vous cache pas que si nous dépassons 1000, 1010, 1015 personnes, nous arriverons avec des matelas, comme ailleurs.
près de 1900 détenus dorment au sol en France en 2022, un quart de plus que l'an dernier. Pour l'instant, ce n'est donc pas le cas à Villepinte, mais la promiscuité ajoutée à l'enfermement est une épreuve.
Les surveillants, ils sont un peu débordés.
Iman est incarcéré depuis 4 mois.
Il y a des gens qui méritent d'être ici parce qu'ils ont commis des crimes, etc. Donc voilà, maintenant c'est vrai que les conditions de détention, quand je le vis ici, je me rends compte que c'est très très difficile et que plus on est là, plus le temps passe, plus ça me révolte d'être ici. Quoi. Au début, je comprenais, je me suis dit ok, faut être bien, faut faire les choses bien, etc. Et plus on avance, plus ça nous énerve.
L'établissement accueille des prévenus en attente de jugement, parfois pendant des années pour les dossiers les plus graves, et des condamnés à des peines relativement courtes. Des initiatives ont été prises pour fluidifier les rapports humains. Depuis 2016, s'inspirant du modèle espagnol, un quartier respecto a été mis en place. 200 prisonniers volontaires se partagent 90 cellules. Ils ont même la clé, la circulation est libre, à condition de s'engager à participer à des activités quotidiennes. Pour désamorcer les tensions, certains détenus à Villepinte ont aussi le statut de médiateur. Celui qui nous parle préfère rester anonyme.
Ça fait 18 mois que je suis incarcéré. Je suis en train de m'adapter à une réinsertion pour dehors, donc ça fait 15 mois que je travaille. Je suis contrôleur à l'atelier. En plus de ça, je suis CDS. CDS, c'est co-détenu de soutien. On vient en aide aux détenus qui sont pas bien, en fait, ceux qui ont besoin de parler. C'est plus facile pour un détenu de parler à un autre détenu, donc voilà.
Les détenus que nous rencontrons et qui acceptent de parler dressent un tableau nuancé de leur vie en prison, conscients que les choses sont pires ailleurs. Mais la situation à l'intérieur de l'établissement pèse sur les familles.
C'est la première fois qu'on vient pour un parloir. On peut déposer les vêtements directement.
À l'accueil du parloir, on rencontre Rosa et sa mère.
Là, je suis venue rendre visite avec ma mère. En fait, mon frère qui est incarcéré. J'ai mon frère qui n'a pas trop envie de nous inquiéter sur les conditions. Donc, il nous dit que tout est beau, tout est merveilleux. Donc, c'est uniquement ce qu'on peut voir. Nous, c'est l'expérience qu'on a en apportant le linge.
Le frère de Rosa est justement incarcéré dans le fameux quartier respecto.
Donc, il a quand même des conditions. Il me semble un peu plus favorable que d'autres. Mais il discute beaucoup avec les gardiens, il me dit que les conditions sont aussi difficiles, eux-mêmes sont incarcérés en fait.
Les familles doivent vivre non seulement loin de leurs proches, mais conscientes aussi de leurs conditions de détention. C'est ce que nous raconte Nadine.
Je suis venue voir mon papa, donc il est en détention depuis très peu. Il m'a un petit peu raconté les conditions de détention qui se sont super mal passées. Ils n'ont qu'une heure de liberté par jour, je trouve ça quand même inhumain. Même mon chien, je le promène plus. Ça reste quand même des êtres humains. S'il est en prison, c'est pour payer sa peine. Il devrait quand même un minimum avoir des conditions de vie normales en fait.
La maison d'arrêt de Villepinte a été construite en 1991 avec l'idée déjà de désengorger les établissements pénitentiaires. Des travaux d'agrandissement vont commencer pour multiplier encore le nombre de cellules à l'horizon 2025. À l'échelle nationale, le gouvernement s'est lancé dans un grand chantier pour construire 15 000 places de prison d'ici 2027. Mais pour l'Observatoire international des prisons, ONG de référence, c'est une fuite en avant. Prune Missoff, responsable analyse et plaidoyer.
La surpopulation carcérale, c'est quelque chose qui existe depuis des dizaines d'années et auquel les pouvoirs publics ne répondent que par la construction de nouvelles places de prison. Selon nous, ça ne permettrait même pas de résorber les besoins actuels, puisque ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois qu'on construit des nouvelles places de prison, en parallèle, la population carcérale augmente. Et donc on a des courbes parallèles qui ne permettent à aucun moment de résorber la surpopulation carcérale.
Avec cette politique, la France est à rebours de ses voisins européens. L'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, les pays scandinaves ont graduellement baissé le nombre de détenus en détention en ayant plus systématiquement recours aux peines alternatives.
On ne fait pas la place nécessaire aux alternatives à la prison qui permettraient justement de renverser un peu le paradigme dans lequel on est et d'aller plutôt vers des réponses finalement qui sont moins coûteuses et qui sont beaucoup plus productives. Par exemple, pour éviter la récidive.
En avril dernier, le comité anti-torture du Conseil de l'Europe a rappelé que la surpopulation carcérale entraîne des violations des droits humains. Fin janvier 2020, c'était la Cour européenne des droits de l'homme qui avait condamné la France pour les conditions inhumaines et dégradantes de ses établissements pénitentiaires.
Accent d'Europe était réalisé par Françoise Grelot. Aujourd'hui, retrouvez-nous sur notre site rfi.fr ou via notre podcast. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute. À demain.